Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue. 12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et elle a une 100 euros pour 38 millions de Français. C'est la réponse du gouvernement au problème de flambée des prix. Reste à savoir qui les versera et quand. Dans ce journal également, le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la grippe. Et puis début ce soir des vacances de la Toussaint. RTL vous emmène sur la route des vacances, justement.
Et juste après le journal, tous les jours, vous le savez, on échange, on décrypte, on débat. Deux sujets, on reviendra sur l'indemnité inflation annoncée hier soir par Jean Castex. Est-ce suffisant pour faire face à la hausse des prix du carburant? D'autant que ce n'est pas tout de suite, hein, c'est décembre, voire janvier-février. Et puis à 12h50, on prendra des nouvelles d'Elisabeth II. On a appris que la reine avait été hospitalisée quelques heures dans la nuit de mercredi à jeudi.
Notre question du jour sur RTL.fr, indemnité inflation, justement, est-ce suffisant? Eh bien, vous dites non à 68%. Notre météo, c'est avec vous.
Je ne suis pas
étonnée. Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
On a eu bien froid ce matin.
Oui, et alors hormis près de la Méditerranée, c'est vrai que ça picote un peu. Ça va encore picoter un petit peu cet après-midi. Et en plus, on va perdre le soleil, notamment sur la moitié nord. Pour l'instant, c'est pas mal, mais ça va être de plus en plus nuageux avec quelques averses attendues en fin de journée au nord de la Seine. On va trouver aussi un ciel passablement nuageux entre les Pyrénées et les Alpes. Là aussi, 2-3 averses, du soleil entre les deux. Et bien sûr, un temps très ensoleillé près de la Méditerranée avec 12 degrés, pas plus à Reims et à Nantes. Cet après-midi, 13 à Cherbourg et Cambrai, 14 à Paris et Lyon, 22 à Montpellier et 24 pour Ajaccio.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et alors que les premiers congés scolaires débutent ce soir, RTL vous emmène donc sur la route des vacances. Embarquement immédiat avec Nerissa et Mani, direction Saint-Malo. Bonjour Nerissa.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Quand on prend la route, le passage obligé, c'est bien sûr la station essence. Et en ces temps de flambée des prix du carburant, c'est loin d'être une partie de plaisir.
Oui, je me suis arrêtée sur l'aire de Beuzeville dans l'heure pour faire un appoint d'essence. Le litre de gazole est à 1,704€. Voilà, j'ai fait le plein, j'ai payé 45,99€ pour 26 litres d'essence. À côté de moi, Marina, elle n'a pas du tout le sourire, elle est en train de faire un plein de son plomb.
Je vais pleurer là.
On est à 56,18€ pour 31,67 litres. Plus que ce que je payais il y a 2 ans, l'année dernière encore.
Cette infirmière gagne 1 800€ net par mois, elle a donc le droit à l'indemnité inflation, mais c'est insuffisant selon elle.
100€ une fois, ouais. C'est pas suffisant. 100€ par mois, ça aurait été un petit peu plus intéressant. Non, là c'est rien pour moi. C'est dans un but électoral et c'est tout en fait.
Mehdi, lui, n'est pas éligible à cette indemnité, mais cet artisan souhaiterait un geste de la part du gouvernement pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité.
Bah, la solution, c'est que j'aimerais bien que l'État qu'elle baisse la TVA sur les carburants. Voilà, il y a des gens qui gagnent leur vie, nous aussi on paye dans nos impôts aussi, hein. Ça paye pour tout le monde, hein. C'est pas possible.
Car l'essence est un budget qui pèse lourd pour cet artisan. Cette semaine, il aura dépensé 240€ pour deux pleins.
240€ pour deux pleins, Nerissa et Mani sur l'autoroute A13, sur la route des vacances pour RTL, et on vous retrouvera bien sûr tout au long de la journée et tout le week-end sur RTL. Alors cette indemnité inflation annoncée hier par Jean Castex, c'est dont on parlait à l'instant, ce sont 38 millions de Français qui vont pouvoir en bénéficier. La condition, gagner moins de 2 000€ net par mois. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Comment ça va se passer concrètement? Qui va verser ces 100€?
Alors je vais vous expliquer ce qu'on sait déjà, mais autant vous dire tout de suite qu'on est très loin d'un versement simple, que les ministères enchaînent encore les réunions et que bon nombre d'administrations en ont déjà des sueurs froides. Pour les 11 millions de salariés qui touchent moins de 2 000€, vous aurez bien 100€ versés par votre entreprise normalement fin décembre et les entreprises se feront rembourser. Pour les demandeurs d'emploi, si vous n'avez pas du tout travaillé ce mois-ci, c'est Pôle emploi qui versera 100€. A priori début janvier, le temps qu'on fasse mouliner les ordinateurs. Mais attention, petite précision du ministère du Travail, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous avez un peu travaillé en novembre, là, c'est votre entreprise où vous avez bossé qui vous indemnisera. Je continue. Les fonctionnaires auront leur prime plutôt début 2022. Les retraités, pour vous, écoutez bien, vous n'aurez droit à la prime que si vous touchez moins de 1 943€ de pension nette. Pas 2000, hein, 1 943. Et ce ne sera pas avant, au mieux, le mois de février. Et alors, le pompon de la tuyauterie impossible revient aux 500 000 salariés employés par des familles, les nounous, les aides au ménage. Si vous êtes employé en CESU+, déclaré à l'administration, normalement, vous aurez 100€ versés automatiquement. En revanche, si vous avez 3-4 employeurs en CESU, en page emploi ou tout autre dispositif, je ne peux même pas vous dire comment ça va se passer. Peut-être que chaque famille va devoir verser un petit bout de prime sur la base d'une déclaration, tout additionné pour arriver à 100 € à la fin. Et vous voyez, à moins d'un miracle administratif, ça va être une usine à gaz.
Non mais c'est une usine à gaz, c'est ça. C'est-à-dire que si tu avais baissé les taxes sur le carburant, alors évidemment, ça ne concernait peut-être pas tout le monde.
C'est pas la même philosophie.
Mais c'est une usine à gaz.
On parle plus de chèque carburant, mais d'indemnité inflation. Et il y a sans doute,
c'est
bien sûr, un choix
politique. C'est l'inflation en général, c'est plus uniquement ceux qui prennent leur voiture.
L'administration, c'est fascinant. 100 €, est-ce vraiment adapté? On en parlera en tout cas tout à l'heure dès 12h40 avec Alain Bazot de l'USC Que Choisir.
Et pour ceux qui ont choisi de prendre le train pour les vacances, petit rappel, cette grève de la SNCF, un TGV Atlantique sur 10 annulé aujourd'hui. Pour demain, la direction promet 8 trains sur 10 en circulation. C'est un peu mieux que ce qui était annoncé au départ. Dans l'actualité également, Renault qui va produire 500 000 voitures de moins que prévu cette année. Rien à voir avec la hausse des prix de l'essence. C'est la conséquence de la crise sanitaire et de la pénurie de composants. 500 000 voitures pour Renault, ce n'est pas rien puisque c'est 13% de sa production. Écoutez François Roudier, c'est le porte-parole de la PFA, la plateforme française de l'automobile, qui regroupe à la fois les constructeurs et les équipementiers.
Eh bien, nous voyons une crise quand même mondiale et on n'en voit pas tellement la fin rapidement. Certains pessimistes parlent même de 2023. On est maintenant à plus de 10 millions de voitures qui ne seront pas produites cette année au niveau mondial, ce qui n'a jamais été vu. Toutes les directions commerciales France, des constructeurs dont Renault, de Stellantis, sont à fond sur le sujet et essayent de trouver des solutions. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle et vous avez beaucoup de véhicules qui vont vous demander 8 mois d'attente. Donc on est sur une véritable crise. On ne peut pas d'un seul coup trouver de nouveaux composants sous le pied.
François Roudy au micro RTL de Christophe Bourroux. Sur le plan sanitaire, le nombre de cas de Covid repart à la hausse. On est désormais au-dessus des 5000 par jour. Mais pas de quoi s'inquiéter, c'est ce que disait ce matin sur RTL Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement.
Il y a une augmentation, mais qui est assez modeste, 10% une dizaine de jours au niveau français. On est dans un contexte de début de la phase hivernale, pas encore tout à fait l'hiver, mais on sait que cela est favorable au virus. Donc il faut tenir compte de ce fait. Néanmoins, les analyses qui sont faites par nos collègues modélisateurs, on peut avoir des petites vagues, mais logiquement, si les gens continuent à respecter raisonnablement les gestes barrières, c'est l'occasion de le dire. Oui. On ne doit pas avoir de vagues importantes, pas de poussée d'hospitalisation. Mais il faut surveiller ça de très près, bien sûr.
Le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, il était ce matin l'invité de Benjamin Sportouche sur RTL. C'est dans ce contexte que débute aujourd'hui la campagne de vaccination contre la grippe. La recommandation cette année, c'est de coupler l'injection à la troisième dose anti-Covid. Mourad Jabari, vous êtes dans une pharmacie de Saint-Denis et ça ne se bouscule pas vraiment?
Effectivement, certains ne sont pas encore au courant parce que cette campagne de vaccination a été avancée de 4 jours par rapport à l'année dernière. Très peu de personnes sont venues se faire vacciner ce matin dans les pharmacies de Saint-Denis. Seuls 3 patients se sont présentés dans la pharmacie de l'Esplanade où je me trouve. Une campagne qui permet à Monsieur Yam de faire de la prévention, de la sensibilisation, comme avec ce retraité qui se vaccine tous les ans contre la grippe saisonnière, mais n'est pas vacciné contre le coronavirus.
Vous avez quel âge ?
75.
75 ans. Vous avez déjà contracté le Covid ou pas ?
Non.
Faut se vacciner rapidement.
Ouais.
Donc je vais avoir besoin de votre
gauche.
Oui, s'il vous plaît. Donc, je vais désinfecter. Vous avez déjà eu des effets indésirables avec le vaccin de la grippe ?
Non.
Non, jamais ?
C'est le premier jour de la campagne de vaccination contre la grippe. Oui. Et vous êtes l'un des premiers dans cette pharmacie à venir vous faire vacciner.
Parce que j'ai l'habitude. J'ai pas de rhume.
Vous avez jamais eu de grippe, du coup ?
Non.
Et pourtant, vous acceptez de vous faire vacciner contre la grippe, mais vous n'avez pas encore fait le vaccin contre le Covid.
Parce que les gens, il y en a qui disent que ça va pas, ça donne d'autres choses. J'ai pas voulu me précipiter, quoi.
Cette campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est selon le pharmacien Yam, le meilleur moyen d'inciter les personnes qui sont passées entre les mailles du filet.
Surtout pour les personnes âgées, en fait, qu'il y a des réticents parmi les personnes âgées.
Ouais.
On essaie de les sensibiliser par rapport à ça. Donc là, c'est évident qu'il faut qu'ils se fassent vacciner.
Même si ce pharmacien précise que ce cas de figure est aujourd'hui très rare, où l'on parle pas de troisième dose contre la Covid, mais d'une première dose, c'est souvent, comme pour ce monsieur, des personnes isolées à mobilité réduite. Le pharmacien a quand même pris un rendez-vous à se retraiter dans le centre de vaccination le plus proche de chez lui.
À Saint-Denis, le reportage pour RTL de Mourad Jabari. Au procès de l'affaire de la sextape Marseille, parole aujourd'hui à la Défense. Alice Moreno, vous êtes sur place pour RTL. À la barre ce matin, les avocats de Karim Benzema, contre qui l'avocat général a requis hier 10 mois de prison avec sursis, leur client, disent-ils, est victime de sa notoriété.
Oui, victime d'un cirque médiatico-judiciaire. Les avocats de Benzema rappellent que des centaines d'articles sont sortis à son sujet alors que l'instruction débutait tout juste. Un média titrait « Karim Benzema avoue alors qu'on entrait à peine dans le bureau du juge ». J'ai reçu des menaces de mort, reprend maître Sylvain Cormier, et Karim aussi, des menaces précises. Il mentionne alors la révélation par le journal L'Équipe de la conversation entre Benzema et l'un de ses amis, où il insulte Valbuena, le traite de tarlouze. Mathieu Valbuena a été influencé par tout cela, reprend le conseil, il a été dépassé par ce cirque. Sur le fond, maître Vey et Cormier démontent tout, il a proposé de l'aide, une fois, Valbuena a refusé, fin de l'histoire, ça ne peut pas être réprimé par la loi. Et il réaffirme que le footballeur ignorait tout du plan des maîtres chanteurs. Pourquoi s'embarquerait-il dans une affaire aussi débile avec des gens qui ont un scénario aussi compliqué? Pour eux, pas de doute, c'est la publicité de cette affaire qui fait la sévérité et la faiblesse de l'accusation contre Karim Benzema.
Compte rendu d'audience signé Alice Moreno. Aux États-Unis, ce n'est pas un footballeur qui est dans la tourmente, mais un acteur connu dans le monde entier, Alec Baldwin. Il a tué cette nuit par balle une femme en plein tournage. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
L'hypothèse de l'accident semble se confirmer.
Ah oui, le journal local Santa Fe New Mexican publie des images d'Alec Baldwin visiblement désemparé sur le parking du tournage après la tragédie. Un reporter précise que l'acteur était en larmes après son interrogatoire par les enquêteurs. Aucune poursuite n'a été engagée à ce stade, selon le shérif de Santa Fe. Alec Baldwin s'est présenté de lui-même au bureau du shérif. Ce dernier entend maintenant les témoins. La production de ce western, Rust, parle aussi d'un accident pendant une scène impliquant un accessoire qui devait normalement être chargé à blanc. On ne sait pas encore si une balle réelle était placée dans le barillet ou si les blessures sont dues à des éclats. On rappelle que deux personnes ont été touchées. La première mortellement. Il s'agit de la directrice de la photographie. La seconde, c'est le réalisateur blessé à la clavicule. Joël Souza serait sorti de l'hôpital, selon l'actrice France Fischer.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL.
L'indemnité inflation, on en parle dans une seconde. C'est une usine à gaz, nous disait il y a un instant Anaïs Bouissou. Au départ, on se demandait si c'était assez important, mais maintenant, en plus, on se dit comment ça va être payé. Donc il y a un double sujet. A tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois.
Pas de chèque ni de baisse des taxes. Le gouvernement a donc finalement opté pour une indemnité inflation, 100 euros pour 38 millions de Français, qu'ils soient salariés, retraités ou autres. La condition, c'est de gagner moins de 2000 euros net par mois. Alors cette indemnité est-elle vraiment adaptée, notamment pour faire face à la flambée des prix de l'essence? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Alain Bazot.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UFC Que Choisir. Alors, j'ai fait mes petits calculs. Un plein moyen, c'est 50 litres, en moyenne, hein, selon la voiture. À 1,649 € le litre de sans-plomb, là aussi c'est une moyenne, ça fait un plein à 82,45 €. L'indemnité du gouvernement permettrait donc de financer un plein écart. Est-ce que ça vous paraît suffisant? C'est mieux que rien, vous allez me dire.
Non, mais c'est sûr qu'on va dire que c'est mieux que rien. Mais alors le Premier ministre a dit qu'il avait pris du temps pour réfléchir parce qu'il avait consulté. Je ne sais pas qui l'a consulté, en tout cas pas l'UFC Que Choisir, première organisation de consommateurs de France. Ce système d'indemnité inflation là est proprement aberrant. Déjà, vous soulignez l'indigence de l'aumône. Je rappellerai quand même au passage que sur les 100 euros, si je les consomme en essence, l'État récupère quelques 60 euros. Donc le cadeau est 40 euros. Bon, donc très franchement, ce système, il n'est pas équitable parce qu'il est ultra simple. Donc il a des vertus en termes de communication pour le gouvernement, j'oserais dire des vertus un peu politiciennes, mais il n'est pas équitable du tout parce qu'il n'est pas ciblé. Donc déjà, c'est indigent, mais en plus, beaucoup de monde, des millions de gens, hein, vous l'avez dit, 38 millions de personnes vont le recevoir, aussi bien quelqu'un qui n'utilise pas l'essence, qui prend sa bicyclette, qui est en pleine ville, que celui qui est à la campagne.
Il est quand même ciblé sur le plan financier, c'est ceux qui gagnent moins de 2000 euros. Mais qu'est-ce que vous auriez...
Oui, mais attendez,
est-ce que vous aviez une solution alternative?
Mais bien sûr, une solution alternative. Déjà, bon, il y a beaucoup de choses qui auraient dû être anticipées, donc là on gère l'urgence. Il y a quelque chose qui n'est pas supportable par l'opinion publique, par la société. C'est lorsque la fiscalité, elle est sans fondement. Je veux parler des taxes sur les taxes. On n'arrête pas de dénoncer cette TVA qui est ponctionnée sur les taxes. Donc en période de crise, celui qui
donc vous auriez enlevé la TVA sur l'essence, par exemple, c'est ça?
Non, la TVA sur les taxes.
Sur les taxes.
Dans toute l'énergie. Si on prend l'essence, déjà. C'est quelques 13 centimes.
C'est quoi la TVA sur les taxes ?
Il y a une TVA sur les taxes, il faut rappeler, monsieur Bazot, aux auditeurs. Il y a une TVA sur les taxes de l'énergie.
Exactement, il y a la TICPE, il y a plusieurs taxes pour constituer le prix final. Il y a toute une partie de taxes sur toutes les énergies. Bon. Et en particulier, quand il y a une taxe qui est prélevée par l'État, l'État prend en plus de la TVA sur la taxe.
Donc ça aurait fait baisser le prix de l'énergie.
Ah ben, mécaniquement et tout de suite, et ça baisse le prix pour celui qui va à la pompe.
D'accord.
Celui qui ne va pas à la pompe et qui va récolter
mais
un chèque.
Mais ça coûtait plus cher à l'État français sans doute. Là, ça coûte déjà 3,8 milliards et la solution que vous proposez coûtait peut-être plus cher.
Ben attendez, il va falloir faire les comptes parce que l'État qui ne veut pas toucher la TVA, il faudra quand même qu'on fasse les comptes à la sortie, savoir combien il a engrangé d'argent avec cette inflation des prix et donc des taxes. Bon. Donc, il va falloir quand même regarder ça de près à la fin du fin. Il y a autre chose qu'on ne dit pas dans le dispositif gouvernemental. On n'arrête pas de répéter qu'on a un blocage des prix de l'électricité et du gaz. J'aimerais quand même qu'on précise que le prix est bloqué que pour le tarif réglementé.
Ça ne concerne pas tous les consommateurs.
Mais il y a 5 millions ou 6 millions de consommateurs qui sont au gaz sur des contrats de la concurrence à Engie. Hein, et ce sont des contrats qui sont fixés sans blocage. Donc les augmentations, ces consommateurs-là vont se les prendre de plein fouet.
Bon, Monsieur Bazot, j'espère que tout le monde n'est pas perdu, parce que c'est toujours un peu technique, ces discussions, forcément.
Mais non, c'est pas technique, monsieur. Attendez, c'est pas technique. Je suis en train de vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas à tarif réglementé, et que le gouvernement ne peut toucher que le tarif réglementé. Bon. Quand il dit qu'il a gelé le prix du gaz et de l'électricité, arrêtez de répandre cette information qui n'est pas précise. 5 millions de gens ne seront pas touchés par le gel des tarifs. Et ceux qui sont touchés par le gel des tarifs, c'est pas un cadeau parce que c'est reculé pour mieux payer. On n'a jamais dit qu'ils ne paieront jamais. C'est-à-dire que quand le dégel va être là, déjà, ils vont pas du tout avoir un cadeau.
J'entends
ils vont
bien,
avoir,
Bazot,
au moment où ça va baisser, ça ne baissera pas pour les consommateurs. Donc de toute façon, les consommateurs vont payer.
J'ai compris, Monsieur Bazot. Alors c'est vrai qu'Anaïs Buissou, il y a un deuxième chapitre, et Anaïs nous l'a particulièrement bien expliqué, c'est la difficulté de recevoir cette prime. Et l'exemple que vous avez donné avec les nounous, extraordinaire. Une nounou qui a 4 employeurs, qui va donner les 100 euros? C'est une usine à gaz.
En fait, tout va dépendre de son dispositif. Il y a 500 000 salariés dans ce cas-là. Il va y avoir certains dispositifs qui vont permettre un versement rapide, et puis d'autres où effectivement, 4 employeurs avec un certain type de déclaration, là ça devient très difficile de savoir aujourd'hui. En tout cas, l'administration ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer.
Merci beaucoup Alain Bazot d'avoir été en direct avec nous sur RTL. Merci aussi à vous Anaïs de nous avoir aidé à y voir plus clair, même si tout n'est pas encore très clair, mais c'est encore en cours d'arbitrage tout ça.
C'est ce que je disais à Monsieur Bazot. Peut-être que ça allait être difficile à comprendre. Je le remercie en tout cas Monsieur Bazot, président de l'UFC que
je
choisis.
Non mais je vous en prie.
Merci vraiment, merci beaucoup Monsieur. On va parler d'Elisabeth II. On a appris que la reine avait été hospitalisée quelques heures dans la nuit de mercredi à jeudi. Comment va-t-elle? On essaye de prendre des nouvelles. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Buckingham Palace confirms the Queen spent a night in hospital after cancelling her visit.
L'information a fait la une et fait la une de tous les médias britanniques. La reine Elisabeth II, hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi. On l'a appris hier soir. Elle est depuis rentrée chez elle au château de Windsor. Dès hier, à l'heure du déjeuner, elle a bon moral, indique le palais. Doit-on pour autant être rassuré? C'est notre deuxième débat dans RTL Midi. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, directrice de la rédaction du magazine Point de vue. Alors, on parle d'examen préliminaire. Est-ce qu'on sait pourquoi, au final, la reine a dû passer la nuit, cette nuit de mercredi à jeudi, à l'hôpital ?
Non, on ne le sait pas et on ne le saura certainement pas. Ça fait partie des informations totalement protégées par les équipes du palais. En revanche, on sait qu'elle était effectivement fatiguée, et fatiguée à raison, parce que depuis son retour de ses vacances d'été à Balmoral, elle a eu un agenda extrêmement chargé, parce que, outre ses audiences hebdomadaires habituelles, elle a fait un voyage à Ascot, elle a honoré 15 engagements officiels et elle a parcouru 1600 kilomètres, alors certes elle est
tout
conduite,
ça, hein, je veux dire, c'est pas quand même.
À 95 ans, donc c'est sûr que c'est totalement logique qu'elle ait un gros coup de fatigue et que, évidemment, étant donné l'importance de la reine Elisabeth, immédiatement ses équipes fassent extrêmement attention.
On l'avait vu avec une canne la semaine dernière pour la première fois.
Oui, c'est un symbole très fort, ça aussi. C'est vrai que déjà aux obsèques du prince Philippe, il y a quelques mois, en avril dernier, on avait vu la reine quand même physiquement affaiblie. On voit qu'elle a du mal à marcher. Et c'était la toute première fois qu'elle apparaissait en public en s'aidant d'une canne. Donc là aussi, ça a participé à finalement créer une inquiétude. Et c'est ça qui est fascinant avec la reine. C'est-à-dire que la minute où on apprend, et encore rétrospectivement, avec un communiqué qui se veut pourtant très rassurant, dès qu'on apprend qu'elle a été hospitalisée quelques heures, ces sujets, le peuple britannique et toutes les chaînes d'infos de la planète paniquent. Donc ça montre l'attachement à cette personnalité.
Est-ce qu'elle s'est exprimée sur sa nouvelle vie sans son mari, le prince Philippe ?
Non, vous le savez, la reine Elisabeth ne s'exprime pas. Elle est l'incarnation du « never complain, never explain ». Ce qui était fascinant d'ailleurs, c'est que honnêtement, elle a eu 18 mois extrêmement difficiles, outre la disparition de son mari, qu'elle appelait très tendrement son « rock », qui aurait suffi honnêtement à battre beaucoup de femmes de cet âge-là. Elle a eu énormément de crises à gérer. Il y a eu la crise d'Andrew, son fils, qui est pris dans le scandale épouvantable de l'affaire Epstein, où il est accusé de faits extrêmement graves. Il y a évidemment le Brexit, le Mexit avec le départ de Harry et Meghan, les révélations d'Oprah, le scandale qui entache à présent le prince Charles, dont on dit qu'il aurait ou que son équipe aurait vendu des médailles contre des financements pour sa fondation. Donc elle a été soumise à très très rude épreuve, mais c'est vrai que au fond le prince Philippe servait aussi d'écran et qu'il n'est plus là pour la protéger. Et qu'il n'est plus là notamment pour la protéger d'elle-même. Et je pense sincèrement qu'elle exige trop d'elle-même.
Elle en fait trop.
Oui, elle en fait trop parce qu'elle a une vision quasiment sacrificielle, je dirais, une vision presque religieuse de sa mission. Elle a fait un serment, toute jeune femme, en 1947, c'est le fameux serment du Cap, où elle dit « toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, je serai au service des peuples dont elle a la charge ». Et je crois que depuis, finalement, l'effacement de sa vie privée, depuis que le prince Philippe n'est pas là pour lui servir son petit du bonnet du soir et lui ménager des instants de détente et de repos, elle s'est complètement recentrée sur sa mission, en oubliant, parce qu'elle est tout à fait lucide intellectuellement, en oubliant que son corps, quand même, a 95 ans.
Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, là, les prochaines heures ?
Alors, elle est censée se reposer jusqu'à la fin de la semaine. Évidemment, tout le monde attend de voir si elle pourra bien assister à la COP 26, parce que très récemment, en plus, elle a fait une sortie qui est rare de sa part sur le climat. Elle a manifesté son impatience en disant qu'en gros, elle entendait beaucoup de paroles, mais qu'il n'y avait pas beaucoup d'actes. Donc, sa venue est très attendue pour cette réunion autour du climat. Et ensuite, c'est vrai qu'elle a déjà recommencé à ouvrir les fameuses boîtes rouges, à suivre son agenda normal, mais sans sorties officielles.
Eh bien, merci beaucoup, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Je regarde autour de moi et je ne vois que des gens qui n'ont connu Elisabeth II, reine d'Angleterre, depuis qu'ils sont nés.
Ben oui, oui, depuis 70 ans bientôt.
Exactement,
c'était
en 1953.
52.
Qu'elle est devenue reine d'Angleterre. Donc, c'est vrai qu'elle fait partie de nos vies, même si nous sommes français. Donc on pourra évoquer ce sujet avec les auditeurs dans une seconde. Il est 12h59. RTL.